Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Aujourd'hui, nous allons parler des Byrds, qui était un groupe de rock américain formé à Los Angeles, en Californie, en 1964, qui obtint un énorme succès commercial équivalent à celui des Beatles, des Beach Boys et des Rolling Stones. Dès le milieu des années 60. Les critiques considèrent aujourd'hui les Byrds comme l'un des groupes les plus influents des années 60. Leur mélange caractéristique de chants harmonieux et du son de la guitare Rickenbacker à 12 cordes de Roger McGinn a immédiatement créé un impact dont l'influence demeure encore aujourd'hui. Le noyau des Byrds s'est formé au début de 1964 autour de Jim McGinn, qui deviendra en 1967 Roger McGinn et que j'appellerai désormais Roger McGinn, qui était un fan des Beatles, puis Gene Clark, qui était intéressé, lui, par la reprise de tubes des Beatles également, et David Crosby, qui, lui, en revanche, était adepte surtout des chants harmonieux. Les trois musiciens avaient une formation enracinée dans la musique folklorique, inspirée de Dylan, au début des années 60. À laquelle ils ont mêlé des chansons des Beatles, bien sûr, et leurs propres compositions dans un cabaret de Los Angeles appelé Troubadour. Impressionnés par l'effet créé par le mélange de leurs voix, les trois musiciens forment un trio et s'appellent d'abord le Jet Set, nom inspiré par l'amour de Roger McGinn pour l'aéronautique. David Crosby a présenté Roger McGinn et Gene Clark à Jim Dixon, ce qui leur a permis d'accéder au studio World Pacific. Devenu leur manager, Dixon a commencé à utiliser Pacific World Studios pour enregistrer le trio et les perfectionner aux techniques de studio d'enregistrement. Puis un bassiste et un percussionniste les rejoignent. Ainsi, à l'origine, les Byrds étaient composés donc de Jim Roger McGinn à la guitare et au chant, Gene Clark au tambourin et au chant, David Crosby à la guitare rythmique et au chant, Chris Hillman à la basse et au chant, et enfin Michael Clark à la batterie. Ils se sont orientés vers un mélange Beatles au début, puis vers les chansons de Bob Dylan, et c'est là que vraiment tout a commencé. En août 1964, Jim Dixon réussit à acquérir une maquette d'une chanson inédite de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, qui, selon lui, constituerait une reprise efficace pour les Byrds. Bien que le groupe n'ait pas été impressionné par la chanson, au moins au début, ils ont commencé à la répéter avec un arrangement de façon groupe de rock. Mais sentant le groupe toujours dubitatif à propos de cette chanson, Dixon a invité Bob Dylan lui-même à World Pacific pour entendre le groupe interpréter Mr. Tambourine Man. Impressionné par les interprétations du groupe, Dylan commence alors avec enthousiasme « Wow, les mecs, on peut même danser sur cette version !» Et son soutien retentissant efface tout dernier doute persistant que le groupe avait encore sur l'adéquation de la chanson avec leur propre style. Peu de temps après, inspiré par le film « A Hard Day's Night », le groupe décide de se doter d'instruments similaires au Fab Four, c'est-à-dire une guitare Rickenbacker à 12 cordes pour Roger McGinn, une batterie Ludwig pour Michael Clark, et une guitare Gretsch Tennessee pour Gene Clark. Mais David Crosby va s'en accaparer, entraînant Gene Clark à en rester au tambourin. En octobre 1964, Dixon a recruté le joueur de mandoline Chris Hillman pour tenir le rôle de bassiste. La formation de Chris Hillman étant plus orientée vers la musique country que le folk, on sent tout de suite que son adaptation au rock sera un peu différente des autres. Le 20 janvier 1965, les Byrds sont entrés dans les studios Columbia à Hollywood pour enregistrer cette fois définitivement Mr. Tambourine Man, qui allait devenir leur premier single chez Columbia. L'anecdote est que seul Roger McGinn joua réellement sur Mr. Tambourine Man Le producteur Terry Machel préféra recruter le Wrecking Crew, groupe de musiciens de studio avec Al Blaine à la batterie, Larry Knechtel à la basse, Jerry Cole à la guitare et Léon Russell au piano électrique, qui, avec donc Roger McGuinn à la guitare, ont fourni la piste instrumentale. Puis, Roger McGuinn, David Crosby et Gene Clark ont chanté sur cette partie musicale. Et voilà ce que cela a donné.
Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
C'était Mr. Tambourine Man par The Byrds sur OxyWeb Radio. Premier album des Byrds, Mr. Tambourine Man, est sorti le 21 juin 1965, atteignant le 6e rang du Billboard et le 7e rang dans le classement des hit parades britanniques. L'album a mélangé des remaniements de chansons folkloriques, y compris adaptations musicales de chansons de Pete Seeger, avec un certain nombre de reprises de Dylan et les propres compositions du groupe, la majorité ayant été écrite par Gene Clark. En particulier, I'll Feel a whole lot better, qui est devenu un standard du rock, avec beaucoup de critiques le considérant comme l'une des meilleures chansons du groupe et de Gene Clark en particulier. À sa sortie, l'album de Mr. Tambourine Man, comme le single du même nom, influença la vulgarisation du folk rock et servit à établir le groupe comme un groupe à succès international, représentant le premier défi américain véritablement efficace face à la domination des Beatles et de la British Invasion en général. Le titre « Je vais me sentir globalement beaucoup mieux », traduit en français, sorti en face B du single « All What I Want to Do », autre grande chanson de l'album, réalisée en juin 1965, elle était écrite par Gene Clark, qui assure la voix principale, et elle met en vedette ce qui deviendra la marque musicale des Byrds du début, avec Roger McGuinn cliquetant sa guitare 12 cordes Rickenbacker, et le chant harmonieux et complexe de McGuinn, Clark et Crosby, auquel s'ajoute donc un solo de guitare influencé par la country. Dans ses paroles, Gene Clark se révèle un parolier relativement profond en évoquant la difficulté de rompre avec une femme, et c'est une idée qui est encore un petit peu nouvelle à l'époque. Enfin, la chanson est construite autour d'un riff très fort que Gene Clark a reconnu plus tard comme basé sur Needles and Pins de Jack Nitzsche, et Sonny Bono.
The reason why, oh, I can't say, I have to let you go, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone.
C'était I Feel a Whole Lot Better par The Byrds sur OxyWeb Radio. À ce moment-là, bien que Roger McGuinn était considéré et largement comme le leader des Byrds, il y avait en fait dans le groupe plusieurs chanteurs. Outre donc Roger McGuinn, il y avait Jane Clark, mais aussi David Crosby et Chris Hillman. Et ce manque de chanteurs dédiés restera un trait stylistique de la musique des Byrds particulièrement important. Une autre caractéristique de l'image des Byrds était leur air détaché, sur scène comme devant la caméra. Cette distance naturelle découlait en réalité des grandes quantités de marijuana qui étaient fumées, nuisant à la qualité de leurs prestations scéniques. Et la presse musicale a été extrêmement critique à ce sujet. Les médias britanniques notamment réagissant, particulièrement lors de la tournée anglaise du groupe en août 1965. Cette tournée anglaise, organisée pour capitaliser sur le succès de Mr. Tambourine Man, sera finalement ratée à cause du son médiocre sur scène, d'une musicalité débridée et d'une présence scénique assez triste. Tout concourt à l'époque pour aliéner le public et agacer la presse britannique. Cependant, la tournée a permis la rencontre et la bonne entente avec les Rolling Stones et les Beatles. Ces derniers ont exprimé leur soutien aux Byrds, les reconnaissant comme des concurrents créatifs et les désignant comme leur groupe américain préféré. Et l'influence des Byrds sur l'album des Beatles Rubber Soul, sorti fin 1965, avec des chansons comme Now We're Man et If I Needed Someone, dont le dernier utilise un riff de guitare similaire à celui de The Bells of Rimney. C'est une chanson créée par le chanteur folk Pete Seeger, utilisant des textes du poète gallois Idris Davis et datant de 1938. Ces textes parlent d'une catastrophe dans une mine de charbon et de l'échec de la grève générale de 1926, et tout cela sur le modèle de la comptine Oranges and Lemons, très populaire aux États-Unis. Et en plus de Rimney, le poème fait également référence aux cloches d'un certain nombre d'autres localités du pays de Galles du Sud.
Oh, what will you give me? Say the sad bells of Rimney. is there hope for the future? Say the brown bells of Merthyr. Who made the mind on air? Say the black bells of London. And you killed the miner. Say the grim bells of Lyman. Through the Vandals in court, say the bells of Newport. All will be well if say the green bells of Cardiff. Why so worried, sisters, why? Say the silver bells of wine. And what will you give me? Say the sad bells of Rimini.
C'était The Bells of Rimini par The Bird sur OxyWeb Radio. Pour leur troisième single chez Columbia, les Birds devaient initialement enregistrer It's All Over Baby Blue de Dylan, mais finalement ils ont décidé d'enregistrer Turn, Turn, Turn to Everything There Is a Season, une composition de Pete Seeger, datant des années 50, avec des paroles presque entièrement issues du livre biblique de l'Ecclésiaste. La chanson a été apportée au groupe par Roger McGinn, qu'il avait déjà arrangé dans un style folk avec la chanteuse de folk Judy Collins pour son troisième album sorti en 1963. Ces paroles, composant un message lyrique de paix et de tolérance, a eu un impact sur le public américain alors que la guerre du Vietnam continuait à s'intensifier. Turn, 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 avec Mr. Tambourine, a servi à faire des Birds l'une des forces créatives les plus importantes de la musique rock, au même titre que les Beatles, les Beach Boys et les Rolling Stones. Ainsi comme à leur début, l'album comprend un mélange d'originaux du groupe, de chansons folkloriques et de reprises de Bob Dylan, tous caractérisés par les harmonies claires du groupe et le son de guitare caractéristique de Roger McGinn. Malgré ces succès, les sessions d'enregistrement pour leur deuxième album ont été réalisées sous haute tension. Une source de conflit est apparue pour la lutte pour le pouvoir qui avait commencé entre le producteur Melcher et le manager Dixon. Ce dernier aspirait à produire le groupe lui-même, le poussant à critiquer excessivement le travail de son rival. Un mois après la sortie de l'album, Dixon et les Birds ont approché Columbia Records et ont demandé que Melcher soit remplacé. Cependant, tous les espoirs de Dixon se sont envolés parce que Columbia, en réalité, fit appel à Alan Stanton, venu d'ailleurs, qui prit soin du reste de l'enregistrement. C'était Turn, Turn, Turn par The Byrds sur Oxy Web Radio. Le plaidoyer pour la paix et la tolérance contenu dans la chanson Turn, Turn, Turn a eu donc un impact sur le public américain à propos de la violence de la guerre du Vietnam. Dans le même esprit, The Times That Are Changing était l'une des deux reprises de Dylan que les Byrds ont incluses dans leur deuxième album. Lay Down Your Weary Tune étant l'autre. Comme d'autres compositions de Dylan que le groupe avait reprises, la chanson était destinée à être la face A d'un single. Elle a été chantée par le leader Roger McGinn et a mis en vedette sa guitare Rickenbacker à 12 cordes. La chanson a souvent été jouée lors de concerts entourant sa sortie. Roger McGinn se souvient que deux Beatles étaient dans le studio lors de cet enregistrement. Cela a mis beaucoup de pression sur les Byrds. Les sessions d'enregistrement ont été marquées en effet par les apparitions surprises de George Harrison et Paul McCartney dans le studio, ce qui, selon les membres des Byrds, les a empêchés de terminer la session et la piste efficacement. Columbia Records a initialement pressé des milliers de manchettes pour le single prévu, mais Jim Dixon, le manager des Byrds, a demandé que la sortie soit abandonnée en raison du mécontentement du groupe, exprimé en particulier par David Crosby. Et Dixon pensait à l'origine que la chanson aurait fait un single fort. Or, dans une interview de 2004, Chris Hillman a déclaré son aversion pour la chanson, suggérant que nous n'aurions pas dû déranger le monde avec cette chanson. Les Byrds ont interprété la chanson lors de l'émission de télévision américaine Hula Baloo, mais elle n'a pas eu d'impact à long terme. Cependant, pour moi, il ne s'agit pas d'un échec, mais plutôt de la confirmation du don du groupe pour embellir les chansons de Dylan et d'en favoriser la transmission du message. Les temps changent, et pour la musique aussi. Come gather round the people wherever you roam. Admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics and prophesize with your pen. Keep your eyes open, the chance won't come again. And watch what you say for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. Though the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he who gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. We'll rattle your windows and shake down your walls. For the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. C'était The Times They Are Changing par The Byrds sur Oxy Web Radio. En décembre 1965, les Byrds ont enregistré une nouvelle composition intitulée A Miles High au studio RCA à Hollywood. Et ça, Columbia Records a du mal à l'accepter et oblige le groupe à réenregistrer sa chanson, et cette fois au studio de Columbia à Los Angeles. Et c'est vraiment cette version, enregistré en janvier 1966, qui sera publié en single et incluse dans le troisième album du groupe. La chanson représente un bond en avant créatif pour le groupe et est souvent considérée comme le premier rock psychédélique à part entière. Hail Miles High est marqué par le jeu de guitare révolutionnaire de Roger McGinn, qui a vu le guitariste tenter d'imiter le saxophone jazz de John Coltrane, et en particulier jouer la chanson India de son album Impressions. Il présente également l'influence de la musique classique indienne de Ravi Shankar dans la qualité bourdonnante de la mélodie vocale de la chanson et dans le jeu de guitare toujours de Roger McGinn. L'utilisation subtile des influences indiennes de la chanson a eu comme conséquence qu'elle a été étiquetée comme raga rock par la presse musicale. Mais en fait, c'est la phase B du single qui peut être véritablement qualifiée de raga rock. Le plus drôle est que cet album, qui paraît très aérien dans son approche, correspond au départ de Jane Clark, qui, ayant peur de l'avion, ne peut plus partir en tournée avec le groupe. Cependant, on sait aujourd'hui que étant le compositeur le plus prolifique du groupe, il était aussi le plus riche. Et ça a créé des sources de conflits en interne, Chris Hillman en particulier, qui fut le premier à assurer la suite après son départ, mais avec un peu moins de bonheur. Jane Clark a par la suite été signée par Columbia Records en tant qu'artiste solo et a continué à produire une œuvre acclamée par la critique, mais commercialement infructueuse. Il est décédé le 24 mai 1991, à l'âge de 46 ans, d'une insuffisance cardiaque. Écoutons donc Hail My Hide, tiré du troisième album, Fifth Dimension. C'était 8 Miles High, les Birds, sur Oxy Web Radio. Le troisième album des Birds, Fifth Dimension, est sorti en juillet 1966. Une grande partie du matériel de l'album continue de s'appuyer sur le nouveau son psychédélique du groupe, Roger McGuinn élargissant son exploration des styles jazz et raga, ce qui fait dire par David Crosby qui compose une chanson dont le titre est « Qu'est-ce qu'il se passe ?» et ça résume bien sa position vis-à-vis cette nouvelle orientation. L'album a également vu Chris Hillman se présenter comme troisième chanteur du groupe afin de combler le trou dans les harmonies du groupe laissé par le départ de Jane Clark. la chanson-titre, 5D, Five Dimension, est sortie en single avant l'album et était, comme Hail My Side avant elle, interdite par un certain nombre de stations de radio pour des paroles qui semblaient préconiser l'usage de drogue. En outre, la pochette du disque est la première apparition des psychédéliques colorés, des Birds, mosaïque logo finalement, variations qui apparaîtront ensuite sur plusieurs albums, studio ou de compilation, et cela dès 1967. L'album Fifth Dimension a reçu un accueil critique mitigé à sa sortie et a connu un succès commercial inférieur à celui de ses prédécesseurs, culminant au 24e rang aux États-Unis et au 27e rang au Royaume-Uni. Ça reste quand même assez moyen. Le biographe du groupe, Bud Scopa, a remarqué qu'avec la performance médiocre de l'album, sa critique tiède et le départ de Gene Clark, la popularité des Birds a commencé à décliner à partir de ce moment-là. En 1966, le groupe avait été presque oublié par le public pop. Néanmoins, ce groupe reste l'ancêtre du mouvement émergent underground du rock, avec beaucoup de nouveaux groupes à Los Angeles et San Francisco, dont Love, Jefferson Airplane et le Buffalo Springfield, nommant publiquement les Birds comme une influence primordiale. Écoutons ce morceau déclencheur de l'évolution psychédélique.
Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention. All my two-dimensional boundaries were gone. I had lost to them badly. I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working. And as I continued to trap through the hole, I found all surrounding to show me that joy innocently is, just be quiet and feel it around you. And I opened my heart to the whole universe, and I found it was loving. And I saw the great blunder my teachers had made, scientific delirium madness. That is now, that has ended before the beginning. Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention.
C'était Fifth Dimension par les Birds sur OxyWeb Radio. Entre novembre et décembre 1966, le groupe enregistre son quatrième album, Younger Than Yesterday. Alan Stanton, ayant quitté Columbia Records pour travailler pour AAM, le groupe a choisi de faire appel au producteur Gary Usher pour sa grande expérience de la production et un amour de l'expérimentation novatrice en studio. Cela s'avérera inestimable pour les Birds qui entamaient leur phase la plus créative. En plus de So You Want to Be a Rock and Roll Star, qui était l'un des hymnes de cet album, il contient également une reprise de la chanson de Bob Dylan, My Pages, qui fut un single de Dylan et dont les paroles, en particulier le refrain, ont été reçues par le public comme un rejet de l'idéalisme politique de l'époque. illustrant sa désillusion, je parle du public, croissante à l'égard des années 1960. La version des Byrds marque leur adhésion à ce mouvement de rejet. Le titre de l'album, Younkers Than Yesterday, plus jeune que hier, lui-même était directement inspiré par le refrain de la chanson qui dit « Ah mais j'étais tellement plus vieux que maintenant je suis plus jeune ». My Back Pages était le dernier single des Byrds à atteindre le top 40 des charts américains. Et pour David Crosby, c'était le signe qu'il fallait arrêter de reprendre du Dylan, et cela le renforça dans son ambition de prendre le leadership du groupe et de placer surtout ses propres compositions. Sorti le 6 février 1967, le quatrième album était finalement le plus varié de ses prédécesseurs, en révélant des influences psychédéliques mêlant à la fois le folk rock, le country et le western. Peter Buckley, expert musical, a fait remarquer que malgré le fait que les fans habituels des Byrds aient rapidement décroché cette nouvelle orientation, le groupe a trouvé un nouveau public qui dédaignait les singles et considérait plutôt les albums comme des déclarations artistiques majeures. Et comme pour marquer cette évolution, à la mi-1967, Jim McGinn a changé de prénom pour devenir Roger, comme je disais à l'introduction. Fidèle en fait au rite de la religion indonésienne appelée Sebud, dans laquelle il avait été initié en janvier 1965. L'adoption d'un nouveau nom était courante chez les adeptes et signifiait une renaissance spirituelle pour le fidèle. Et je vous laisse juge de l'évolution du groupe avec My Back Pages.
Older than I'm younger than that now.
Half right prejudice leap for rip down all hate I scream. Lies that life is black and white spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers foundation deep.
So much older than I'm younger than that now.
In a soldier's stance I aim my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. Sisters fled by confusion boats, mutiny from stern.
So much older than I'm younger than that now.
Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow.
Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
C'était My Back Pages par les Byrds sur Oxy Web Radio. La chanson suivante s'appelle « Have you seen her face ?» et c'est une chanson écrite par le bassiste Chris Hillman et qui fut donc incluse dans l'album. La chanson a été écrite après une séance d'enregistrement avec le trompettiste Hugh Metzkeller, que Chris Hillman avait assisté en 1966, année qui a vu l'épanouissement du bassiste comme auteur-compositeur. Sur le précédent album des Byrds, Fifth Dimension, la seule contribution d'Hillman était en fait une composition en commun pour l'instrumental Captain Soul. Et dans Younger Than Yesterday, il est crédité un peu comme co-auteur également de So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star avec Roger McGinn. Have You Seen Her Face a une structure et une mélodie stridente, fortement influencée par les groupes britanniques du milieu des années 60 et complétée par le jeu mélodique de Chris Hillman qui sonne un peu comme du Paul McCartney. La chanson contient également un solo de guitare fabuleux qui a un faux air de country et western, joué par Roger McGinn, bien sûr, et soutenu par la guitare rythmique de David Crosby. Have You Seen Her Face est le troisième single extrait de l'album, Younger Than Yesterday, des Byrds, donc, qui est sorti en plus en mai 1967. Il aura atteint la 64e place du Billboard Hot 100, qui est assez décevant. Pour autant, la chanson a été publiée en single sur la plupart des marchés internationaux, sauf, et c'est assez étonnant, au Royaume-Uni. Malgré sa performance relativement médiocre dans les charts américains, la réaction critique fut plutôt positive. Et on peut même souligner qu'elle a été décrite comme une chanson magnifique et l'une des grandes chansons des Byrds.
Swept in June, whenever she's close by, makes me wonder why. Run by, don't turn back, can't hide from that look in her eye. Must be the way she walks, a style made up to capture all she needs. No time spent on loose talk, if your luck runs right, she might see you tonight, everything in sight. Run by, don't turn back, can't hide from that look in her eyes. In her spell, all the sights and sounds, your senses will be found. Let only time will tell how much love can be. Wait so patiently, wait and see. Run by, don't turn back, can't hide from that look in her eyes.
C'était Have You Seen Her Face, as-tu vu son visage, par les Byrds, sur OxyWeb Radio. L'album Younger Than Yesterday contient également la ballade de David Crosby, Everybody's Been Burned, que le critique Thomas Ward a qualifié comme l'une des chansons les plus envoûtantes du catalogue des Byrds et l'une des meilleures compositions de David Crosby. Et pour moi, c'est un moyen aussi de mettre en exergue le travail de David Crosby au sein des Byrds, qui est relativement ignoré. La contribution de David Crosby était d'inspiration jazz, Everybody's Been Burned, une sombre méditation sur la nécessité de trouver un équilibre entre la désillusion et la persévérance résolue dans une relation. Et je reconnais que c'est pas quelqu'un de très facile d'accès. Bien que la chanson ait été considérée par beaucoup de critiques comme un saut en termes de sophistication musicale lors de sa sortie. Elle a en fait été écrite en 1962, 2 ans avant la formation des Byrds. L'auteur, Johnny Logan, a déclaré que l'enregistrement de la chanson par les Byrds est l'une des meilleures performances vocales de David Crosby et l'un des plus émouvants solos de guitare de Roger McGinn. David Crosby est né en 1941 à Los Angeles, en Californie. Il est d'abord inspiré par Brian Wilson, principal fondateur, compositeur, arrangeur du groupe Les Beach Boys, et par les chants folkloriques du Moyen-Âge. C'est assez curieux. Et il est reconnu pour la qualité de sa voix haute et pure, ainsi que pour ses talents d'arrangeur de chœur. Il a également travaillé de façon marginale pour le cinéma et la télévision, comme compositeur, acteur et producteur. Mais bien sûr, son heure de gloire correspond à sa participation à Crosby, Stills, Nash & Young et ses différentes déclinaisons. En général, ses compositions se caractérisent par une mélodie et une instrumentation très sereine, mais des paroles très elliptiques. C'est toute la complexité du personnage. Et en plus, au sein des Byrds, comme il a essayé d'en prendre le pouvoir, sans succès, il a juste réussi à se faire virer des Byrds.
Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Anyone in this place can tell you to your face why you shouldn't try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows, and me, I know that door just before you get to the dream.
C'était Everybody's Been Burned par les Byrds sur OxyWeb Radio. À la fin de 1967, après le départ de Jane Clark, survenu en 1966, les Byrds voient David Crosby et Michael Clark, le batteur, quitter le groupe. Roger McGinn et Chris Hillman recrutent de nouveaux membres, dont le pionnier du country rock, Graham Parsons. Mais à la fin de 1968, Chris Hillman et Graham Parsons s'en vont. Roger McGinn choisit alors de reconstruire le groupe et entre 1968 et 1973, il a dirigé une nouvelle incarnation des Byrds avec notamment le guitariste Clarence White. Roger McGinn a dissous la formation au début de 1973 pour faire place à une réunion du quintet original. Et au fond, ce sera le dernier album des Byrds. Il est sorti en mars 1973, le groupe réunifié se séparant peu après. Cet album, intitulé Byrds, est excellent, avec une version délicieuse de Cowgirl in the Sun de Neil Young, du moins c'est mon avis. Plusieurs anciens membres du groupe ont poursuivi leur carrière avec succès, soit en solo, soit en tant que membres de groupes tels que Crosby, Stills, Nash & Young, les Flying Burrito Brothers et le Desert Rose Band. À la fin des années 80, Jane Clark et Michael Clark ont tenté de faire renaître le nom des Byrds, provoquant une contestation judiciaire et une série de concerts de la part de Roger McGinn, David Crosby et Chris Hillman pour revendiquer leurs droits sur le nom des Byrds. Jane Clark est morte d'une crise cardiaque en 1991, alors que Michael Clark, lui, est mort d'une insuffisance hépatique en 1993. Aujourd'hui, Roger McGinn, David Crosby et Chris Hillman restent néanmoins actifs. La semaine prochaine, je vous parlerai du mythique album blanc des non moins mythiques Beatles. Ainsi, nous poursuivrons cette déclinaison des différentes formes musicales où le blues restait très présent, quoi qu'on en dise. Mais d'ici là, par où les blues?